Introduction. Le bouddhisme est bien plus connu dans le monde aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 30 ans, lorsque nous nous y sommes intéressés pour la première fois. On trouve des dizaines de livres sur le sujet en librairie et il existe plusieurs centaines de centres bouddhiques en Amérique du Nord, comme en France, où l'on peut s'informer sur le bouddhisme directement auprès d'adeptes de ses diverses traditions. Le bouddhisme semble même s'infiltrer dans la culture plus générale. On en entend couramment des références occasionnelles au cinéma et à la télévision. Mais, même avec cette reconnaissance accrue, nous nous demandons encore dans quelle mesure le grand public connaît et comprend vraiment le bouddhisme. Malgré le nombre de livres sur le sujet, nous soupçonnons que, hormis ceux qui se sont sérieusement penchés sur le sujet, la plupart des gens n'ont encore qu'une vague idée de tout ce qu'est le bouddhisme.
Pourquoi ce livre ? Donc, que faire si vous voulez comprendre davantage le bouddhisme en général, mais que les livres que vous avez consultés jusqu'à présent traitent un sujet trop étroit, en ne couvrant par exemple qu'une école, un aspect ou une pratique spécifique, et que vous n'êtes pas encore mûr pour vous inscrire à un cours de votre centre bouddhique du quartier, en admettant que vous en ayez un ? Eh bien justement, le livre que vous écoutez en ce moment pourrait bien être ce que vous recherchez. Dans ce livre, nous essayons de traiter les principaux thèmes et courants du bouddhisme sans vous submerger par trop de jargon technique. Aux endroits où nous employons des termes techniques, nous les expliquons de façon aussi claire et succincte que possible. Et nous vous proposons aussi, en fin d'ouvrage, un glossaire que vous pouvez consulter pour vous rafraîchir la mémoire si nécessaire. Comme nous croyons que le Bouddha voulait que son enseignement soit considéré comme un ensemble de conseils pratiques, des conseils qui sont aussi pertinents pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 2500 ans, lorsqu'il les prodigua pour la première fois. Nous avons essayé d'éviter une approche purement théorique, pour en privilégier une qui vous montrera comment appliquer sa vision profonde de la réalité à votre propre vie quotidienne.
Les conventions adoptées dans ce livre. Pour les dates, nous employons les abréviations avant JC et après JC, pour désigner respectivement des dates avant et après Jésus-Christ. Ne soyez pas étonnés si les dates qui figurent dans ce livre diffèrent un peu de celles que l'on trouve dans d'autres livres sur le bouddhisme. Les historiens sont en désaccord sur quelques-unes de ces dates, et nous avons donc tout simplement adopté celles qui nous semblent les plus raisonnables. En outre, dans tout ce livre, nous citons, pas trop souvent nous l'espérons, des termes techniques bouddhiques et les noms de personnes de deux anciennes langues indiennes, le pali et le sanskrit, qui sont les langues des écritures bouddhiques les plus anciennes, et de quelques autres langues asiatiques comme le chinois, le japonais et le tibétain. Chaque fois que c'est possible, nous avons simplifié l'orthographe de ces mots pour refléter leur prononciation approximative en omettant la plupart des signes que les érudits de ces langues utilisent habituellement lorsqu'ils les écrivent en se servant de l'alphabet latin. Écoutez à ce sujet les « remarques concernant les mots d'origine étrangère » qui précèdent le glossaire en fin d'ouvrage. Dans le même souci de clarté et de simplification, nous avons en outre décidé, pour désigner les noms et les adjectifs des grandes traditions bouddhiques, d'écrire le nom de la tradition avec une majuscule. Exemple, le zen, et avec une minuscule l'adjectif correspondant, zen. Comme « zen » est un adjectif invariable, nous avons choisi d'étendre cette règle aux adjectifs des autres traditions. Le Theravada désignera donc la tradition des non-Theravada, le Mahayana désignera le bouddhisme Mahayana, etc. Si des érudits écoutent ce livre, ils ne devraient avoir aucun problème à identifier ces termes, même sans les signes de la graphie savante. Pour toutes les autres personnes, nous pensons que la présentation simplifiée est plus claire et plus conviviale.
Avertissement de l'éditeur et du traducteur. Deux termes qui reviennent assez souvent dans ce livre ont une réputation sulfureuse en France et en Europe en général. Gourou et secte. On pourrait essayer de résumer les connotations négatives de ces mots par une phrase du genre « Un gourou, c'est un charlatan manipulateur aux allures de sainteté qui dirige une secte d'illuminés pour les détrousser, les exploiter et se taper les minettes paumées quand ce n'est pas carrément un ensorceleur très dangereux, une sorte de joueur de flûte de Hamelin ». Sans nier le moins du monde les divers événements, phénomènes et comportements à l'origine des acceptions négatives de ces deux mots, et en encourageant vivement le lecteur à toujours faire usage de son bon sens, il nous faut préciser ici le sens de ces deux termes, tels que nous les employons dans ce livre. Un gourou, digne de ce nom, est un véritable guide spirituel. C'est bien sûr de ce type-là de gourou dont nous parlons dans le présent livre. Mais alors, direz-vous, comment faire la distinction? Il appartient à chacun de trouver une réponse personnelle à cela. En tout cas, nous pouvons encourager l'observation et l'usage du bon sens. Voir à ce sujet l'encadré « Le gourou observé de près » du chapitre 6. Une secte est, dans le contexte du bouddhisme, simplement un terme technique qui désigne, selon la première définition du petit Robert, un groupe organisé de personnes qui ont la même doctrine au sein d'une religion. C'est dans ce sens que nous employons ce mot dans le présent ouvrage. La seule exception à cette règle est signalée sans ambiguïté au chapitre 5.
Le plan de ce livre. Le bouddhisme est un immense sujet. Non seulement le Bouddha fut très prolifique, et son enseignement propre représente plus de 100 livres en traduction, mais toute une succession de commentateurs brillants en Inde et dans d'autres pays y ajoutèrent de surcroît leurs propres idées et interprétations. Ce phénomène engendra un vaste corpus d'écritures et conduisit au développement de différentes écoles et traditions bouddhiques. En outre, tandis que le bouddhisme se propageait de pays en pays, il prenait différents parfums. Le bouddhisme du Japon, par exemple, est différent de celui de Thaïlande, et l'on trouve d'ailleurs plusieurs formes distinctes de pratiques bouddhiques au Japon même. Dans un ouvrage comme celui-ci, il n'est pas possible de faire honneur à tous ces aspects variés de la pensée et de la pratique bouddhique. Au lieu de cela, nous associons un survol général des différentes traditions et écoles à une discussion plus approfondie des thèmes les plus importants, ceux qui caractérisent le bouddhisme dans son ensemble. Pour rendre notre présentation aussi claire et utile que possible, nous avons regroupé les sujets dans les parties ci-après qui couvrent chacune un grand thème.
Les signaux sonores de ce livre. Pour attirer votre attention sur certaines informations que nous trouvons particulièrement importantes ou intéressantes, nous les avons balisées avec des signaux sonores dont voici la liste. N'oubliez pas, les renseignements désignés par ce signal sonore valent la peine qu'on les mette en évidence. Nous l'utilisons pour souligner une pensée exprimée ailleurs dans ce livre ou simplement pour attirer l'attention sur quelque chose que nous trouvons particulièrement important de garder à l'esprit. Conseil. Ce signal sonore signale des suggestions pour atteindre une compréhension plus profonde de l'aspect du bouddhisme qui est en train d'être exposé. Attention. N'ayez pas trop peur quand vous entendrez ce signal sonore. Nous nous en servons surtout pour attirer l'attention sur des sujets où peuvent surgir des malentendus, afin de vous éviter de trébucher dessus. Parole de sage. Ce signal sonore désigne des citations de maîtres bouddhistes célèbres du passé, y compris le Bouddha lui-même, qui illustre l'aspect du bouddhisme en train d'être exposé. Anecdote. Ce signal sonore vous indique que nous racontons une légende bouddhique traditionnelle, ou peut-être un incident de nature plus personnelle. Et maintenant, comment procéder ? Vous pouvez écouter ce livre de plusieurs façons différentes. Comme chaque chapitre de ce livre est assez autonome, vous pouvez aussi commencer son écoute là où il vous plaira, et naviguer ensuite à votre convenance. Les renvois signalent les passages où vous pourrez trouver d'autres informations sur des thèmes sélectionnés. Vous pouvez aussi écouter ce livre de la manière ordinaire, autrement dit, du début jusqu'à la fin. Finalement, si comme certains vous aimez commencer par la fin, vous le pouvez aussi. Après de nombreux détours, vous atteindrez le début à reculons. En tout cas, quelle que soit l'approche que vous adopterez, nous espérons que vous trouverez ce livre instructif et plaisant.